Radio Starbeck.
Morning edition from NPR News.
Radio Rosanna
lo que se reproduce dentro de la radio.
France Inter. Le 18-20.
C'est une fierté de produire une huile de palme durable. Nous avons des critères très stricts RSPO en matière de droit du travail et de critères environnementaux.
Attendez, donc ça existe vraiment, l'huile de palme durable, propre, responsable? Eh bien, on va vous le dire. C'est l'escale reportage d'un jour dans le monde, ce soir à Bornéo, grâce à Sandy Dauphin. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la déforestation? On verra ça ensemble. Sous les radars en Colombie, en Suisse et à Rome avec Amélie Perrier, vous l'avez entendu. 18h50, le cinéma en VO, c'est une plongée dans la Louisiane de Trémé, le quartier de Trémé à la Nouvelle-Orléans, touché par des crimes racistes. 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four qui va comparer les taxes de nos voisins avec celles que nous avons ou n'avons pas. Et on verra si le compte est bon. Avant cela, nous partons pour l'ONU et sa coince. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
C'est un peu le sujet qui secoue l'Europe en ce moment, tout en passant presque inaperçu, si ce n'est d'ailleurs sur certains sites complotistes en France. Les sites d'Infox surfent, soit dit en passant, sur quelques sites de gilets jaunes, histoire d'en parler. C'est aussi une grande affaire de défection en cascade, les États-Unis d'abord, et puis Israël après, et puis l'Australie, et puis la Hongrie, toute seule en Europe, jusqu'à ce que se rallient l'Autriche, la Pologne, la République tchèque, la Bulgarie, la Belgique se tâte encore, mais la Belgique est en train de se retrouver au bord d'une crise parlementaire sur le sujet. L'Italie hésite, et en France, les députés LR ont demandé un débat au Parlement. Mais de quoi parle-t-on exactement? Du pacte de l'ONU sur les migrations qui comporte 23 points dont on va parler et qui doit être signé solennellement le 10 décembre, donc c'est la semaine prochaine à Marrakech. Bonsoir Hélène Thiollet.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous enseignez à Sciences Po, vous participez à ce que vous avez collectivement appelé un GIEC des migrations. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur ce fameux texte et ses 23 points. Qu'est-ce qui dit ce texte qui a été discuté aux Nations Unies pendant des mois avant d'arriver à son acte final, on va dire, qui doit avoir lieu la semaine prochaine à Marrakech? Ça dit quoi en fait?
Ce texte, c'est tout simplement un cadre de coopération non contraignant, un texte en fait très prudent et même relativement anodin, si on le regarde un peu précisément, qui essaye de créer des conditions de discussion, de coopération, de collaboration entre les États pour gérer les migrations.
Alors, vous dites anodin et non contraignant, on va revenir sur ces deux termes-là, parce que moi, si je le lis, en fait, tout ça est absolument formidable. Et en même temps, pardon de le dire comme ça, c'est pas un petit peu la foire au bon sentiment quand même? Faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples, bah oui. Favoriser les pratiques de recrutement justes et éthiques, assurer des conditions d'un travail décent, bah évidemment. Gérer les frontières de manière intègre, sûre et coordonnée, oui bien sûr. Refuser l'accès, assurer l'accès pardon des migrants aux services de base, d'accord, oui, tout ça paraît frapper au coin du bon sens. J'ai presque envie de vous dire, ça sert à quoi exactement? À quoi ça sert?
Mais vous avez un peu touché le nerf de la guerre. C'est-à-dire que ce texte est souvent critiqué parce que, notamment par les opposants des extrêmes, des différents spectres politiques dans différents pays, parce qu'il serait une attaque à la souveraineté, qu'il serait encore une règle globale imposée aux États. Alors qu'en fait, comme vous le dites, il n'a non seulement pas de caractère contraignant, mais en plus les propositions qu'il avance et les dispositifs qu'il invite à adopter, hein, une invitation très ouverte, sont en fait tout un tas de règles et de contextes juridiques qui existent déjà et que pour la plupart, les États, notamment les pays de l'OCDE, qui aujourd'hui sont en vent debout, enfin dans certaines franges sont vent debout contre ce texte, ces cadres, ils les ont déjà ratifiés, ce sont des conventions qu'ils ont déjà signées, ce sont des pratiques qu'ils sont déjà censés mettre en application. Et en fait, en rappelant aux États les obligations qu'ils ont déjà signées, ou les textes, les conventions internationales qu'ils ont déjà signées, ce texte ne fait en fait que pointer du doigt le régime d'exception dont sont victimes les migrants parce qu'ils sont migrants. C'est-à-dire que ce que nous dit en creux ce pacte global, c'est que les migrants sont laissés au banc du droit international public du fait de leur statut de migrant.
Donc ça veut dire que les pays qui font blocage aujourd'hui, et d'ailleurs la grande série de pays européens qui font blocage aujourd'hui, quoi, se sont sentis visés, au fond, par ce qu'il dit ce qui est dit en creux, comme vous dites à l'intérieur de ce texte.
Mais le paradoxe, c'est que je ne pense pas qu'ils se soient sentis visés. Je pense que les quelques groupes et groupuscules ou les franges marginales des réseaux sociaux qui se mobilisent aujourd'hui essayent en fait d'agiter et d'instrumentaliser le pacte global pour parler d'autre chose, pour se positionner dans des échiquiers politiques nationaux, pour avancer un agenda. Mais qu'en fait, personne ne s'est vraiment penché sur le contenu de ce pacte, dont la fonction, encore une fois, est juste de rappeler aux États leurs obligations juridiques, qui ne sont pas énormes, envers les migrants comme envers tous les êtres humains. Donc rappeler que les migrants, en fait, sont des êtres humains comme les autres.
Alors, il y a quand même cet article 17 qui parle d'éliminer toutes les formes de discrimination et d'encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. Ce qui est aussi une manière de dire, vous racontez en fait n'importe quoi, vous dites les choses n'importe comment, il va falloir que ça change désormais. Ça fait partie des articles qui ont été perçus de manière assez violente, on va dire.
Absolument, mais en même temps, on peut pas non plus négliger le fait que les discours sur les migrations, les informations qui circulent sur les migrations, même les infox, le volume de délire qui circule sur les faits migratoires, sur les migrants, sur les demandeurs d'asile, a augmenté de manière absolument démesurée, notamment dans le cadre de la crise politique de 2015. Et il y a là un enjeu qui est bien sûr un enjeu politique et aussi un enjeu pour les médias, pour les journalistes et qui a un enjeu aussi pour les chercheurs, c'est-à-dire de faire circuler un certain nombre d'informations et de savoirs rationnels, apaisés, dépassionnés, afin de faire retomber un petit peu le soufflet hystérisé de ce débat public sur les migrations qui parasite un peu nos sphères politiques.
Mais est-ce que vraiment ça peut servir ? Est-ce que vraiment ça peut faire fléchir ? Regardez, on est dans une époque où les États-Unis, qui sont sortis extrêmement tôt du texte d'ailleurs, sont en train de construire un mur. On est dans un contexte où on sait comment ça se passe aujourd'hui en Europe. Donc est-ce que on a un peu l'impression d'un contre-temps ? Est-ce qu'on n'est pas à contre-temps avec ce texte-là finalement ? Ou trop tard presque ? Mais enfin bon.
Ce texte est vraiment une tentative classique de la part de l'ONU de créer un cadre de coopération. Donc, à ce titre, il donne en fait une arène dans laquelle des États peuvent se rencontrer, des États, mais aussi des organisations internationales, des organisations non gouvernementales. Après, pour revenir à cette idée qu'il est trop tard, j'ai la faiblesse de penser que non, il n'est pas trop tard, et que ce dont je parlais comme d'un soufflet, c'est-à-dire ces emballements médiatiques ou ces emballements en matière d'information sur les migrations, le nombre de mensonges, d'informations erronées qui circulent, tout ça peut aussi retomber, et j'ai quand même l'espoir que un apaisement est possible, notamment avec un travail de pédagogie publique qui viserait à expliquer plus sérieusement ce que sont les migrations, quels sont leur impact sur les pays d'origine, quels sont leur impact sur les pays d'accueil, loin de toute forme d'idéologie et en essayant de se départir des biais partisans.
Alors, travail que font les journalistes quand même, y compris en Hongrie, j'imagine, et dans ces pays qui sont les premiers à avoir dit non, non ?
Absolument, les journalistes sérieux, les chercheurs, il y a tout un tas de communautés professionnelles qui tentent de dépassionner ce débat, tout en saisissant quand même la dimension politique. Mais n'oubliez pas que la Hongrie est quand même un pays qui a interdit au milieu de l'année dernière les recherches en sciences sociales sur les migrations. Donc il ne faut pas non plus négliger l'impact qu'ont les gouvernements d'extrême droite quand ils arrivent au pouvoir sur la capacité des journalistes, des chercheurs, de faire leur travail et de contribuer au débat public de manière sereine.
S'il n'y a pas les États-Unis, donc s'il n'y a pas Israël, s'il n'y a pas la Hongrie, s'il n'y a pas la Pologne, s'il n'y a pas la République tchèque, s'il n'y a pas la Slovaquie, s'il n'y a pas la Belgique, s'il n'y a pas l'Italie, à quoi ça va ressembler Marrakech dans une semaine ? Est-ce que ce grand symbole, puisque c'est la première fois que l'ONU s'empare de manière aussi vaste de ce problème des migrations, s'il n'y a pas tous ces pays-là, à quoi ça va ressembler Marrakech dans une semaine ? Est-ce que ce ne sera pas une coquille vide ou précisément la preuve que tout ça est poussière en fait ?
En fait, c'est pas la première fois que l'ONU essaie de créer un cadre de coopération sur les migrations. La première fois, ça a été l'échec de 1990 de la Convention sur les travailleurs migrants et de leurs familles, qui là était un texte contraignant, qui a mis 13 ans à être ratifié. Et là, on peut parler d'un vrai échec, puisqu'aucun des pays de l'OCDE ne l'a ratifié. Ensuite, il y a eu une conférence en 2006, une autre en 2013, appelée Dialogue de haut niveau. Il y a eu tout un tas de forums. Donc, il faut aussi remettre ce pacte mondial dans une série de tentatives qui sont des tout petits pas pour amener vers cette coopération. Donc, les échecs sont toujours un peu relatifs, les succès aussi, on le sait aussi à l'ONU. Et à mon avis, ce qui est important, c'est que c'est de mettre autour de la table de plus en plus de participants dans cette coopération, même si certains s'en vont ou participent de manière un peu, on va dire, à géométrie variable. Il ne faut pas oublier non plus que ce cadre de coopération qui est proposé par l'ONU n'est qu'une façon de rassembler différents cadres coopératifs régionaux qui existent déjà entre l'Europe et l'Afrique du Nord ou l'Afrique sahélienne, maintenant la Corne de l'Afrique, le processus de Colombo qui rassemble les pays d'Asie et les pays du Conseil.
Mais vous ne pensez pas
qu'on
ne verra que les absents la semaine prochaine, Hélène Thiollet, non ? On ne verra
que
les absents.
Ça, c'est dramatique parce que ça fait partie de la politisation de l'enjeu migratoire et de on va dire, de la radicalisation un peu des discours sur la migration. À quel moment a-t-on vu l'ONU réussir des coups d'éclat sur des questions aussi épineuses et politisées et tendues que les migrations ?
Mais ça veut dire que l'Europe pense encore, et ça c'est plutôt intéressant, et surtout pour vous les chercheurs, quel est le centre des mouvances migratoires au fond ? Et que le seul but et principe de n'importe quel migrant, c'est d'arriver jusqu'en Europe. Alors qu'on sait aujourd'hui que les mouvements sont bien différents. Ce sont des mouvements qui, par exemple, les mouvements africains restent d'abord en Afrique avant de venir, etc. Donc est-ce que ça veut dire aussi que de toute façon, c'est à ce démarrage-là qu'il faut faire plus de pédagogie et qu'il faut expliquer plus de choses ?
Absolument.
Et que ce travail n'a pas été fait peut-être ?
Et dans ces pactes mondiaux, il y a une dimension qui est très importante, qui est la dimension de mise en commun des données, la dimension d'information. On parle beaucoup de données, mais on parle aussi de cadre d'analyse pour mieux comprendre ces dynamiques, essayer de mieux comprendre les liens de causalité. Vous l'avez dit, la géographie des flux migratoires qui est en fait une géographie complètement fantasmée, notamment en Europe, qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais aussi par exemple l'impact de l'immigration sur l'économie, sur la croissance, sur les salaires, par exemple en France, on est très très obsédé par le coût de l'immigration sur les systèmes de santé. Bon, tout ça nécessite d'être expliqué, d'être analysé, et la recherche s'est penchée depuis plusieurs décennies sur ces questions-là. Elle a des résultats, parfois des certitudes, parfois il y a des controverses, et au moins apporter des éléments un peu plus sereins au débat public me semble important. Le seul problème des chercheurs, comme des journalistes qui travaillent de manière sérieuse, c'est d'arriver à être entendu dans une sphère médiatique où une sphère publique où le poids des réseaux sociaux, des fausses informations est de plus en plus important et est de plus en plus instrumentalisé aussi par les acteurs politiques.
Et comme vous dites, parce qu'en ce moment, il y a effectivement des fake news qui circulent, y compris d'ailleurs sur les barrages des Gilets jaunes. Il y a un certain nombre qui ont été mis en avant. Regardez ce qui se passe au Parlement de Belgique aujourd'hui, où on est à deux doigts de la crise politique sur ce texte-là. Vous avez le sentiment qu'on est quoi ? Dans une disproportion où finalement ça nous dit des choses. Ça nous dit énormément de choses sur la manière dont on perçoit ces questions-là, nous ici en Europe quand même.
Ça nous dit beaucoup de choses effectivement sur l'instrumentalisation de la thématique migratoire dans le débat public et par les acteurs politiques. Ça nous dit pas grand-chose des migrations. Ça, c'est un peu dommage. Mais ça nous dit beaucoup sur le rôle qu'ont les migrations aujourd'hui comme une sorte de silex qui permet d'allumer des feux et des contre-feux et qui a perdu en fait pied par rapport aux réalités dont on parle. Et c'était intéressant quand même ce débat au sein des mouvements des Gilets jaunes. La controverse en fait est née au sein du mouvement des Gilets jaunes. Certains ont essayé d'utiliser cette question pour radicaliser le discours contre Macron, contre l'ONU, contre tout. D'autres ont dit, mais attendez, ça n'a rien à voir avec nos revendications.
La France est en train d'être vendue à l'ONU,
voilà.
c'est ça qu'on voit sur le site.
D'autres ont dit, mais ça n'a rien à voir avec nos revendications. Arrêtez de faire toujours soit du migrant, soit de l'étranger, le bouc émissaire de tout. Ça n'a rien à voir. Restons sur nos revendications, restons sérieux et lisez le texte. voilà. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'au sein de ce mouvement populaire et démocratique, on a eu une sorte de dans ce microcosme qui n'est pas si micro, un exemple de cette disparité, de ces tensions dans le débat public.
Et c'est sûrement pas fini puisque le texte sera vu et ratifié, on va appeler ça comme ça, à Marrakech la semaine prochaine. Ce sera le 10, peut-être l'occasion d'en reparler si ces barrages de gilets jaunes aussi existent, comme quoi l'actualité se croise. Merci beaucoup Hélène Thiollet, chargée de recherche au CNRS et enseignante à Sciences Po aussi. Merci.
France Inter, Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe à Bornéo. On va parler de l'huile de palme durable. Figurez-vous dans l'escale reportage. Amélie Perrier qui sera là également avec la Colombie, avec un sapin de Noël à Rome et du rap suisso-béninois. Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
On est en Louisiane grâce à vous avec un documentaire.
Voilà, moi je vais vous expliquer comment un documentaire sur les racines de la musique noire américaine à la Nouvelle-Orléans s'est transformé en témoignage sur la condition des Noirs dans une Amérique de plus en plus raciste.
Et à tout à l'heure, le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous avez sorti votre calculette, comptez les taxes que nous avons, qu'ont nos voisins et inversement.
Regardez, je l'ai apporté là, ouais. On va comparer un gilet jaune en poche, les taxes chez nous et chez nos voisins, vous allez voir, il y a des surprises.
Allez, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par la Floride, nous sommes chez Charles Bradley. Can't fight the feeling. Oh Charles Bradley sur France Inter, Can't Fight the Feeling. On se bat pas contre Amélie Perrier non plus, sous les radars c'est maintenant.
France Inter.
Good evening and welcome.
Bienvenue au Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie, sous les radars ce soir, ça commence en Colombie, qui en a assez d'être toujours associée à l'un de ses mythes.
La Colombie dit aujourd'hui nunca más Escobar, plus jamais Escobar, car le narcotrafiquant le plus célèbre au monde est aujourd'hui le héros de séries, de films incarnés par des acteurs charismatiques tels Javier Bardem, Andrés Parras ou le brésilien Wagner Moura. Pablo Escobar donne son nom et son visage à des restaurants, des t-shirts, des livres, mais écoutez ces Colombiens interrogés par le grand journal national El Tiempo. Alors, Pablo Escobar, ça signifie la tristesse, parce que ce sont de mauvais souvenirs. Pour moi, c'est l'un des personnages qui a fait le plus de mal à ce pays. Il a marqué l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire. Trop de sang pour ce pays. Et quand vous dites que vous venez de Medellín, disent derniers, les gens répondent Ah ok, comme Pablo Escobar. El Tiempo en a fait également un édito marquant. Le quotidien redessine ce qu'il appelle le vrai visage de Pablo Escobar. Douloureux et sanglant. Ce n'était pas glamour. Au contraire, il a fait souffrir 34 millions d'habitants, la population du pays à l'époque. Et de rappeler les attentats contre le vol Avianca en 89, 111 morts. L'attentat de la 93e rue à Bogota en 93, la bombe avait tué 8 personnes et blessé 242. Sans parler d'une génération de dirigeants politiques honnêtes, décimés, qui aurait pu construire une autre Colombie. Alors en ce 25e anniversaire de la mort du chef de cartel, le mot-clé « Nunca más Escobar » est devenu viral sur les réseaux sociaux.
Le pouvoir des séries en Italie, cette fois où l'esprit de Noël est sur le point de faire son retour.
Grâce à Netflix, Fabienne, le diffuseur de vidéos à la demande sponsorise l'arbre de Noël de Rome cette année. Il sera inauguré par la maire de la ville, Virginia Raggi, samedi, Piazza Venezia. L'élu du mouvement 5 étoiles vient d'en faire l'annonce sur Facebook avec ce commentaire légèrement ironique. Mesdames et messieurs, Spellacchio est de retour à Rome. Spellacchio, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça veut dire déplumé et c'est comme ça que l'on a baptisé le sapin de l'an dernier. Il avait perdu toutes ses aiguilles, pas beau à voir. Cette année, Netflix prend les choses en main. Un conifère de 20 mètres de haut, décoré de 60 000 LED et de 500 boules. Ça va coûter 376 000 euros. Netflix se vante aussi d'un clip digne d'une méga production.
E insomma, ora torno nella mia città.
Et mi piace pensare.
Et voilà, c'est Spellacchio hein, qui parle, qui annonce qu'il rentre à Rome et donne rendez-vous aux Romains le 8 décembre. Netflix n'a quand même pas grillé la priorité au Vatican, hein, où l'arbre de Noël le surpasse de 3 mètres, 23 mètres de hauteur. Et les guirlandes seront allumées la veille, c'est-à-dire vendredi, après-demain.
Super. Voilà, l'arbre de Noël parle à Rome, donc
c'est là qu'il s'appelle.
On termine avec une autre série, c'est à suivre sur le site du Temps, Amélie, le journal suisse.
Oui, une série documentaire et musicale, ça s'appelle Rap Suisse Piste Africaine. On va suivre trois rappeurs du collectif Superwack Click. Alors, ces rappeurs, ils s'appellent Slimka, Dime et Pink Flamingo. Ils quittent Genève, direction le Bénin.
Bénin, c'est la capitale de la sorcellerie. On va marabouter les gens.
Et Superwack, c'est le projet hip-hop qui cartonne aujourd'hui en Suisse et ça ressemble à ça quand ils se produisent au Paléo Festival de Nyon. Alors, vous allez me dire, Fabienne, quel rapport avec le Bénin ?
Quel rapport ?
Quel rapport entre la Suisse et le Bénin ?
Mais oui.
Eh ben, ce sont les deux seuls pays au monde qui célèbrent leur fête nationale le 1er août. Un point commun, mais un choc des cultures quand les rappeurs débarquent à Cotonou. Même quand, à l'image de Pink Flamingo, des parents viennent d'Afrique, et la découverte du continent est quand même assez brutale.
Tu sais, on a trop une image de l'Afrique, genre en mode, ouais, c'est des blédards, ouais, tu vois. Et là, quand t'arrives, tu vois qu'en fait, genre en mode, eux, ils vivent comme ça, tu vois. Donc, toi, t'es qui pour dire ça, tu vois? C'est toi le blédard en vrai, tu vois, quand tu viens d'Europe et tout. C'est toi en vrai le blédard.
Et voilà, dans cette série, les rappeurs vont partir à la découverte de musiciens béninois, de la meilleure fanfare du continent, nous promet le temps. 4 épisodes en tout, et le premier est à découvrir dès maintenant sur le site du journal suisse.
Voilà, Amélie Perrier, en mode sous les radars, tous les jours, merci beaucoup.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est à Bornéo que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, Bornéo, fabricant en direct de Nutella, de diesel, tiens, c'est dans l'actualité, avec son huile de palme. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir Fabienne.
Vous en revenez de Bornéo, deuxième producteur d'huile de palme au monde. Et question, alors, est-ce que ça existe vraiment, l'huile de palme plus verte, plus écolo, l'huile de palme durable?
Oui, pour tenter de le savoir, direction Sabah, un état malaisien situé sur la côte est de l'île de Bornéo, l'une des régions au monde où l'on déforeste le plus en ce moment. De chaque côté de la route, des étendues de palmiers à perte de vue, un balai de camions chargés de fruits de palme. Dans les plantations, on voit les ouvriers qui se servent d'une longue perche pour couper et faire tomber les grappes de fruits rouges du haut des palmiers. Nous sommes dans l'une des plantations du géant du secteur, le groupe malaisien Jianting, 43 000 hectares à lui seul, dans l'état de Sabah, 20 millions de palmiers. La plantation est labellisée huile de palme durable, certification internationale RSPO. Abdul Rahim Wilson Benaboula, le directeur de la plantation, assure la visite en grande pompe.
Oh, of course, yeah, betul. Ia menjadi satu kebanggaan, not only dalam.
C'est une fierté de produire une huile de palme durable. C'est un investissement à long terme.
Perbezaan dengan estate yang ada. RSPO.
Nous avons des critères très stricts RSPO en matière de droit du travail et de critères environnementaux.
Aujourd'hui, ce genre de plantation modèle est une vitrine pour des marques comme Nestlé, Ferrero ou Unilever, soucieuses de la bonne image des pots de Nutella, barres chocolatées Kit Kat ou encore des savons Dove. Les multinationales ont pris en compte les avertissements des ONG, estime Laure Grégoire, porte-parole de l'Alliance pour la préservation des forêts, qui regroupe une dizaine d'entreprises agroalimentaires et de cosmétiques.
Les campagnes des ONG ont été éminemment utiles pour nos entreprises, pour qu'elles prennent conscience des problèmes qu'il y avait sur l'huile de palme qu'elles achetaient. Ça nous a donc obligés à remonter nos chaînes d'approvisionnement et d'aller voir les planteurs et d'exiger le respect de garanties telles que la préservation des forêts, la protection des espèces animales et des conditions de travail décentes pour les travailleurs. Et c'est toujours un effort perpétuel.
Un effort perpétuel car pour l'instant, la certification durable n'a pas permis de stopper la déforestation. Certaines multinationales ne respectent pas toujours leurs engagements et la ruée vers le palmier à huile, 30% plus rentable que la culture du riz, est difficile à encadrer dans un pays où 40% de la production est assurée par de petits planteurs. Mais pour Greenpeace, si la filière durable est loin d'être parfaite, elle a le mérite d'exister. D'autant que les critères de labellisation viennent d'être durcis, Grant Rosemond, représentant Greenpeace en Asie du Sud-Est.
Greenpeace n'est pas en faveur d'un moratoire ou d'un boycott. On soutient l'huile de palme propre, mais on continue de faire du lobbying intense contre l'huile de palme sale associée à la déforestation. Une partie de l'huile de palme sert à fabriquer de l'agrocarburant. Du point de vue de Greenpeace, ce n'est pas une bonne utilisation de l'huile. Donc oui, nous sommes opposés à l'utilisation de l'huile de palme pour les agrocarburants.
Message qui passe mal auprès des autorités malaisiennes, Wilfred Madius Tango, numéro 2 de l'État de Sabah, est remonté contre ce qu'il appelle les donneurs de leçons européens.
They have been misinformed and misled in many ways.
Les gens sont mal informés.
Learned people spend more time reading about.
Même les gens instruits passent plus de temps à lire des choses sur les orangs-outans que d'essayer de comprendre le secteur de l'huile de palme. Il a permis de lutter contre la pauvreté. Vous connaissez beaucoup de pays en Europe qui sauvegardent 50% de leurs forêts ? Ici, c'est le cas.
Aujourd'hui, la filière durable de l'huile de palme représente moins de 20% de la production mondiale. Le risque, c'est qu'elle reste un marché de niche, du sur-mesure pour les Européens sensibilisés aux enjeux environnementaux. Alain Rival est le directeur régional pour l'Asie du Sud-Est du CIRAD, le Centre français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, conseille la filière huile de palme.
L'Europe ne fait pas le marché. L'Europe se cantonne à une dizaine de pourcents du marché, une quinzaine de pourcents. Le défi qui est devant nous, c'est de convaincre les gros acheteurs, ceux qui font le marché. L'Inde, la Chine, l'Indonésie, qui fait beaucoup d'autoconsommation, que cette évolution des pratiques, elle est bonne pour eux. Le gain de productivité que ça engendre, le gain de bien-être pour les petits planteurs qui vont être mieux encadrés, des travailleurs des plantations qui auront des normes de sécurité plus strictes. Donc il faut entretenir cette tendance-là, la nourrir de faits scientifiques pour que la durabilité devienne une norme universelle et pas seulement une norme européenne.
La survie de ce qui reste de la forêt en dépend, celle des orangs-outans aussi, victimes de la déforestation mais aussi de la chasse.
Donc là, on s'avance dans la forêt, il a énormément plu. Donc on progresse dans l'eau pour essayer de retrouver des orangs-outans qui ont été observés pas loin d'ici.
On voit que ça bouge un petit peu. Donc là, on a Jenny et Océane qui sont en train de manger des fruits de la rame. Et juste derrière nous, on a Manis, c'est une adolescente femelle aussi, qui est venue en fait parce qu'il y a un gros figuier qui est en train de faire des fruits. Donc en fait, là, on a trois animaux sur le même périmètre. Voilà. c'est le cri du bébé, ça.
Qui appelle sa mère.
Ouais. Parce qu'elle a pas pu la suivre et elle sait pas. Elle sait pas où aller, en fait. Et donc, tu vois la mère, elle se rapproche petit à petit. Ça, vous avez de la chance, c'est pas souvent que les petits vocalisent comme ça.
Marc Ancrena est installé à Saba depuis plus de 20 ans. Il a cofondé Yutan, une association pour la sauvegarde des orangs-outans. Il gère également un programme de conservation.
Nos recherches montrent que si rien n'est changé sur nos pratiques d'exploitation foncière et sur le problème de la chasse, on risque de perdre peut-être la moitié des effectifs actuels d'ici à une vingtaine d'années. On estime avoir peut-être 80 000 orangs-outans sur Bornéo, ça veut dire qu'on en perdrait 40 000.
Il y a un nouveau marché qui se profile, le marché des agrocarburants à base d'huile de palme. Est-ce que ça vous inquiète ?
Ça m'inquiète parce que si on crée un nouveau marché, un marché qui est potentiellement énorme pour les biocarburants, c'est une menace supplémentaire sur les forêts tropicales.
Sandy Dauphin à Bornéo pour un jour dans le monde.
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Corinne, vous nous emmenez en Louisiane ce soir pour un documentaire signé de l'italien Roberto Minervini. What you gonna do when the world is on fire? Vous ferez quoi quand le monde sera en feu? Question à laquelle le réalisateur attendait de répondre en allant placer sa caméra au cœur de la communauté noire du quartier de Trémé, c'est à la Nouvelle-Orléans, qu'on connaît grâce à la série, mais qui est surtout en proie à une flambée raciste. Extrait et on en parle.
To even be a Black Panther is an honor, it's a privilege.
We've been set free, but we still being slaves, God damn it.
You should know why I'm teaching you how to fight. To protect yourself. Because nowadays, people don't fight. They like to shoot.
Alors Corinne, c'est pas la première fois hein, que Minervini tourne un documentaire sur le sud des États-Unis. Sauf que là, quand il démarre son projet, c'était il y a 2 ans maintenant, il s'attendait pas du tout à ce qu'il a trouvé.
Non, au départ, Roberto Minervini avait en tête un documentaire sur les racines de la musique noire à la Nouvelle-Orléans. Il cherchait un sujet plus joyeux, plus rassembleur que les milices anti-gouvernement sur lesquelles il avait travaillé dans un précédent film. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Judy, donc dans ce quartier de Trémé, jeune femme noire américaine aux cheveux blonds décolorés, issue d'une famille de musiciens, tenancière du Oupoupidou, le bar du quartier où tous les soirs on se retrouve pour écouter de la musique, faire la fête et essayer d'oublier le quotidien dans une Amérique qui est devenue de plus en plus raciste. Alors au début, personne n'avait vraiment envie de raconter son histoire, surtout pas devant une caméra. Et puis, au fur et à mesure, des moments passés ensemble, l'actualité les a rattrapés, les langues se sont déliées, plusieurs meurtres, plusieurs bavures policières qui ont eu une sorte d'effet d'électrochoc et qui ont totalement changé la nature du projet, venant placer Judy au cœur d'un documentaire sur les inégalités sociales et la condition des Noirs dans l'Amérique de Donald Trump.
Pour tout vous dire, je n'attendais pas grand-chose du film. C'est tellement nos vies depuis toujours, du sang, de la sueur et des larmes. On partage quasiment tous la même histoire, on n'a pas eu besoin de se préparer pour le film. Roberto n'a pas eu besoin de nous donner d'instructions, comment bouger ou nous asseoir. Tout ce que vous voyez à l'écran est authentique. Il n'a eu qu'à allumer la caméra et laisser tourner. Et ce que j'apprécie dans le film, c'est qu'il n'essaye pas de nous dresser artificiellement contre les Blancs, même si cette dualité existe. On a tous peur, c'est vrai, que nos enfants finissent sous les balles d'un policier ou que l'un d'entre nous se fasse décapiter par un membre du Ku Klux Klan.
You know, which is pretty painful for all of us, because we got to look at our young kids and wonder.
Tout ça est effrayant et nous brise le cœur. Mais nous le savons maintenant grâce à ce film. Je le sais parce que je l'ai vécu. Nous ne sommes pas tout seuls. Mais vous savez, les choses sont allées si loin et ça ne semble pas près de s'arranger. Si tu n'as pas un mental d'acier, tu es foutu. Ce climat te tue, littéralement. Et il faut garder espoir.
Alors Judy n'est pas la seule à témoigner, il y a aussi Michael, Ronaldo, Titus, des membres du nouveau mouvement aussi des Black Panthers, des dizaines de visages qui racontent tous la même histoire, celle d'une Amérique oubliée qui souffre, une communauté qui voudrait bien se faire une place dans un pays où manifestement elle n'en a pas tant que ça.
Et où les crimes, les incivilités, Corinne, envers les Noirs sont en progression constante, des voitures taguées « nigger », qui est un mot parfaitement interdit par ailleurs aux États-Unis, les messages du Ku Klux Klan sur des panneaux des écoles, des meurtres restés impunis comme par exemple, Alton Sterling, c'est en 2016, il en est beaucoup question dans le documentaire.
Ouais, deux policiers responsables de sa mort qui ont obtenu il y a quelques mois un non-lieu. L'affaire avait mis le feu aux poudres dans ce quartier qui avait déjà été traumatisé par l'ouragan Katrina. Roberto Minervini signe ici un film qui est vraiment fort, rempli de détails du quotidien. La photographie aussi est magnifique et le propos fait non seulement froid dans le dos, mais fait aussi écho à la montée des populismes en Europe et en Italie, son pays d'origine.
Nous assistons en ce moment à une résurgence de populisme et à une montée de l'extrême droite qui a réactivé les craintes des Noirs, en particulier avec tout ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle de Donald Trump. Il est devenu urgent d'un seul coup de travailler sur le sujet. Et dans mon approche, j'ai besoin de me fondre, de me mêler à la communauté que j'observe. J'ai choisi le Sud, parce que c'est là que je vis depuis bientôt 12 ans. Mais c'est vrai que de plus en plus, je me dis qu'un de ces jours, il faudrait que je retourne passer du temps dans mon pays d'origine pour aller observer la montée du populisme aussi en Italie. Raconter la vie de ceux qui souffrent et les conséquences de la décomposition de l'État-providence.
Ben voilà, donc peut-être prochainement en Italie, un documentaire sur le mouvement 5 étoiles et autres. Chaque chose en son temps. What you gonna do when the world is on fire? Ça sort aujourd'hui. Réflexion sur le racisme aux États-Unis, signé du documentariste Roberto Minervini. Merci Corinne Pellissier.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, le gouvernement a donc fait marche arrière sur la taxation du diesel. On va voir si ça suffit à éteindre le mouvement des Gilets jaunes. On n'y a pas encore. On y revient évidemment dans le journal de 19h avec Sébastien Paour. Du coup, c'est un manque à gagner d'au moins 3 milliards de recettes pour l'État. Et ça vous conduit à vous interroger sur les taxes pratiquées en France. Intéressant de comparer avec nos voisins. Le résultat est assez surprenant. Finalement, on n'est pas si taxé que ça. C'est votre monde à l'envers.
Ce soir, donc, on sort la calculette. On va comparer les taxes sur plusieurs produits. À tout seigneur, tout honneur, le roi essence d'abord. Question simple, l'essence et le diesel sont-ils plus chers en France qu'ailleurs en Europe? Eh bien, la réponse est pas vraiment. Alors, autant le préciser d'entrée, c'est un constat qui évidemment n'ôte rien au fait que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir boucler vos fins de mois et donc à rejeter ces hausses sur le diesel. Mais affirmer catégoriquement que c'est plus cher en France, ça, c'est de l'intox. Les documents publics de la Commission européenne et du Parlement britannique sont les plus révélateurs. Je vais aller lentement. Il faut distinguer le prix en valeur absolue et le prix en valeur relative. Je m'explique. En valeur absolue, c'est tout simplement quel est le prix affiché à la pompe. Alors là, c'est vrai, la France est dans le peloton de tête en Europe. Sixième prix le plus cher pour l'essence. Quatrième prix le plus cher pour le diesel. Nous ne sommes devancés que par l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni. Maintenant, en valeur relative, c'est-à-dire si on compare ce prix au pouvoir d'achat des automobilistes, ce qui évidemment est une comparaison qui est plus juste. Là, c'est différent. La France est dans la moyenne européenne, plutôt un peu en dessous même, à peu près au même niveau que l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est-à-dire qu'un plein de 50 litres à peu près, ça représente environ 4 à 5% du revenu mensuel médian d'un Français. C'est pire en Espagne, en Italie, en Pologne, bref, dans une quinzaine de pays. En résumé, rien de spécial en France.
Alors, en tout cas, ces hausses de taxes, quoi qu'on en dise, sont au moins suspendues pour 6 mois. Donc, ça va faire près de 2 milliards de manque à gagner pour l'État, 3 et 4 milliards si c'est étendu à l'année, voire au-delà. Donc, comment on fait à la place?
Alors, c'est une bonne question. Fortiori, si on veut rester dans les clous des équilibres budgétaires demandés par l'Europe, la fameuse règle des 3%, on va conserver la calculette. On va comparer d'autres taxes. Restons d'abord dans la fiscalité écologique. Est-ce qu'il y a des taxes qui permettraient non seulement de faire rentrer de l'argent, mais aussi d'avoir un effet vertueux sur les émissions polluantes des transports? Et la réponse est oui, il y en a une évidente, c'est la taxation du kérosène des avions. Parce que là aujourd'hui, c'est zéro patate, rien du tout, pas de taxe. Alors que le transport aérien, c'est proportionnellement le plus polluant au monde, plus encore que la voiture, 40 fois plus que le train. Imaginons, hypothèse, que l'on taxe tous les avions qui se posent sur le sol français, sur la même base que l'essence des voitures. Vous savez combien ça rapporterait? Je vous le donne en mille. 3 milliards, bingo, exactement le manque à gagner recherché. Et en plus, la taxe serait payée en gros par les plus riches, puisque ce sont les plus aisés qui prennent l'avion. Sauf que, On n'a pas le droit, en raison d'une convention internationale sur le transport aérien. Enfin si, on a le droit, mais uniquement sur le kérosène des vols intérieurs. Ça ferait déjà 500 millions. Et tiens, tiens, à nouveau, une petite comparaison. Plusieurs pays le font déjà. Le Brésil, les États-Unis, le Japon, la Norvège. Et nous, eh ben non. Ajoutons qu'on pourrait appliquer le même type de taxe sur le fioul lourd des cargos ou des paquebots de croisière.
D'accord. Et donc, si on compare d'autres taxes en dehors du transport?
Alors, on peut prendre deux exemples. Vous avez toujours votre casculette, j'espère. Mm-hmm. D'abord, le vin. Il n'est quasiment pas taxé en France. En gros, 1 centime d'euro sur un verre. En Irlande, c'est 80 centimes. Au Royaume-Uni, 65 centimes. En Suède, 52 centimes. Et de nombreux alcoologues spécialistes de santé publique le dénoncent depuis longtemps. Le coût de l'alcool pour la société est très supérieur à ce que rapporte la filière du point de vue économique. Si le vin était taxé à même hauteur que les alcools forts, ça rapporterait de l'ordre de 4 milliards. Tiens, toujours la même somme, celle qui manque à l'appel. Deuxième exemple, combien rapporterait à l'État une légalisation du cannabis? Déjà en place, on le sait, en Uruguay, au Canada, dans plusieurs États américains. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même double peine. C'est-à-dire que l'État paye la facture de santé publique liée au cannabis, mais c'est le marché noir qui touche les recettes. Si le cannabis était légalisé en France, estimation de la Fondation Terra Nova, les taxes rapporteraient à l'État 2 milliards. On est toujours dans la même échelle. Donc après, hein, ce sont des choix politiques, c'est pas moi de les faire. Taxer le diesel, le kérosène, le vin, le cannabis, autre chose, faites votre choix.
Jean-Marc Fauré, le monde à l'envers. Merci Jean-Marc, on se retrouve demain le 18-20. La suite, c'est le téléphone sonne. Vos appels déjà nombreux, comme tous les soirs. Merci de nous écouter. Bonne soirée avec nous.